C'était prévu, c'était annoncé. Aujourd'hui, des températures encore très très élevées. On avait 70 départements qui étaient en alerte rouge. Ce sera un peu moins demain, mais on va regarder quand même aujourd'hui les températures, les valeurs que l'on a dépassées avec vous, Anthony Ferry, dans une France qui a chaud, très chaud, très très chaud.
Encore une fois, effectivement, on a atteint les 40 degrés à l'ombre sur une très large partie du territoire. On a même atteint très localement 45 degrés dans l'Indre. C'était, à ma connaissance d'ailleurs, c'est la plus forte valeur que nous ayons enregistrée sur cet épisode de vague de chaleur. Mais vous l'avez dit, effectivement, voyons tout de même un petit peu d'espoir. Eh bien, tout simplement, 61 départements seront en vigilance rouge demain. Ça paraît énorme, mais c'est tout de même 11 de moins qu'aujourd'hui, si nous en avons 72. Alors, en gros, ce seront les départements de l'ouest du pays qui sortiront effectivement de cette vigilance rouge. Si vous habitez sur la façade ouest, donc sur la côte atlantique...
Ça, c'est la carte d'aujourd'hui,
ça, c'est
pas celle de demain.
Ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Voilà, demain, en fait, on pourra la publier aux environs de 22h. Demain, donc si vous habitez effectivement sur la façade ouest, donc de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, eh bien, vous sortirez effectivement de cette vigilance rouge. Et vous pourrez donc effectivement respirer un petit peu. On attend un petit peu moins de 30 degrés sur ce territoire. Un petit peu moins aussi tout de même en Bretagne, 25 degrés.
Donc il va faire encore très chaud pour ceux qui habitent à l'est. La canicule n'est pas finie, mais est-ce que pour les autres, c'est la fin? Et d'une manière générale, est-ce qu'on est capable de voir la fin de cet épisode caniculaire pour l'ensemble du territoire?
On va justement pouvoir peut-être vous montrer exactement cette carte. De samedi. Alors samedi, vous le voyez, on aura un temps qui sera estival sur la pointe de la Bretagne. Il sera encore tout de même assez chaud sur globalement une zone allant des Pays de Loire, de la Charente-Maritime jusqu'aux Ardennes. En revanche, on restera dans un scénario caniculaire sur à peu près la moitié du pays. Prudence aussi aux orages qui sont donc sur cette zone bleue. Ça, c'est pour samedi. Mais regardez dimanche. Dimanche, ça va être vraiment la bascule. Mmh. Pourquoi ? Parce que nous avons vraiment un air marin qui va arriver sur une large partie de la façade ouest et donc qui va rafraîchir vraiment le pays. Voici donc ce qui vous attend dimanche. Vous voyez, le rouge vif a disparu. Sauf, effectivement, tout de même, on garde cet orange sur le pourtour méditerranéen où là, on aura encore des valeurs localement allant jusqu'à 40 degrés. Mais vous le voyez, pour la Bretagne, on sera avec un air relativement doux. Ce sera tout de même assez estival, un petit peu chaud tout de même aussi sur la Charente jusqu'aux Ardennes. Et puis surtout, cet axe orageux qu'il va vraiment falloir surveiller. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie canicule, le dur de la canicule, ce sera fini dimanche, lundi. Mais dimanche, lundi, c'est encore...
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, et on a notamment entendu la ministre de la Transition écologique, attention, ça va durer jusqu'au 14 juillet.
Alors, il faut savoir, raison garder, aucun modèle n'affirme que jusqu'au 14 juillet, nous aurons des températures extrêmes. Donc, nous ne pouvons pas effectivement confirmer ce que dit Madame la Ministre. Pour l'instant, aucun modèle ne le prouve. La seule tendance que Météo France a donnée pour cet été, c'est un été qui sera plus chaud que la normale. Mais est-ce que ce seront des températures qui seront 2 à 3 degrés au-dessus ou 15 degrés au-dessus, comme nous venons de le connaître ? Nous ne pouvons pas vous le dire.
L'inquiétude porte désormais sur les établissements sanitaires, les hôpitaux, avec une ministre de la Santé qui nous a alerté qu'on s'attendait à une forte augmentation de la fréquentation des hôpitaux ce week-end, le service des urgences. D'ailleurs, on a déplacé ce qu'on appelle le plan Orsan. Plan Orsan au niveau 3, c'est le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire.
Oui, tout à fait. Vigilance accrue donc, parce que ce sont aussi des cas, et ce que disait notamment la ministre de la Santé, qui se déclenchent après plusieurs journées, avec notamment des patients, parfois en affection longue durée, qui ne sentent pas forcément les conséquences immédiates de la chaleur, mais à qui il faut 2-3 jours pour décompenser et se rendre compte que leur état s'aggrave. On a ces informations que BFM TV a données dans la matinée, avec des arrêts cardiaques, là aussi, qui explosent, pardonnez-moi l'expression, notamment en Île-de-France, et qui, là aussi, peuvent amener à saturer les services d'urgence. Et une ministre de la Santé, un gouvernement plus largement qui est très très vigilant quant à la situation sanitaire. Un week-end en effet, là encore une fois, qui pourrait s'annoncer délicat.
Une équipe de BFM TV s'est rendue à Aulnay-sous-Bois, à l'hôpital d'Aulnay. C'est Antoine Forestier avec Thomas Loriot justement pour constater ce qu'il en était, Antoine.
Oui, c'est un hôpital qui a été construit il y a plus de 70 ans. Il a subi depuis des rénovations. Certains services disposent de la climatisation, comme en réanimation par exemple. Mais la plupart des chambres où sont entreposés les 700 lits que compte cet hôpital ne disposent même pas assez de ventilateurs. Ce qui a le don d'agacer les syndicats qui ont alerté la direction bien en amont de ces vagues caniculaires, il y a plus d'un an, un an et demi en arrière. Et donc, ils demandent à la direction de trouver des solutions parce que la situation à l'intérieur est difficilement supportable pour les patients, mais également pour les 2000 personnels de santé. Je vous propose d'écouter à ce sujet Aline Charron. Elle est secrétaire générale de la CGT au sein de l'hôpital. Elle est interrogée au micro de Thomas Loriot.
Alors, la situation au sein de l'hôpital, elle est catastrophique. Très peu de climatiseurs. La direction n'est pas en mesure de nous dire combien de climatiseurs il y a sur l'établissement. Elle n'est pas en mesure de recenser où se trouvent ces climatiseurs. Ça fait déjà un an et demi qu'on demande où se trouvent ces climatiseurs, combien il y en a. Il n'y a pas de réponse. On leur demande d'acheter en amont des climatiseurs, c'est pas acheté. Ils achètent quelques ventilateurs au compte-gouttes. Il y en a 50 qui viennent d'être commandés. Les trois quarts des services, il fait plus de 35 degrés dans les chambres. Les agents et les patients, du coup, n'ont pas de fontaine à eau, n'ont pas de bouteille d'eau, alors que les conditions ne sont pas correctes. Ils mettent des couvertures de survie sur les fenêtres. C'est les seules recommandations que nous avons de la direction aujourd'hui.
Nous avons contacté la direction de l'hôpital pour qu'ils répondent à ces critiques des syndicats. Ils n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview et preuve que cette chaleur est difficilement supportable. Ce matin, selon une source syndicale, il y avait un examen pour des étudiants infirmiers à l'intérieur de l'hôpital. Une vingtaine d'entre eux ont été pris de malaise à cause de ces fortes chaleurs. Ils ont été pris en charge par les pompiers et le SAMU de Seine-Saint-Denis.
Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes handicapées, bonsoir,
bonsoir.
Camille Gallière-Minier. Rien n'est prêt, ni l'hôpital, ni les transports, ni l'école. Mais que fait ce gouvernement d'amateurs ?
Merci pour cette question qui
ah ben je vous en prie,
qui est,
c'est votre première.
Qui est adressée.
Vous tenez à...
Voilà, merci pour d'abord merci pour cette invitation, mais je vais répondre à votre question. Merci pour cette invitation.
Parce que gouverner, c'est
Et gouverner, c'est aussi venir répondre effectivement à ces questions et venir effectivement évoquer les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, puisque c'est effectivement mon portefeuille.
On va en parler, mais d'une manière générale, quand même, je me fais le porte-parole peut-être de beaucoup de Français, mais on a l'impression que rien n'est prêt, alors qu'on ne cesse de nous répéter que ces vagues de chaleur vont devenir banales en France. C'est la deuxième d'ailleurs depuis le début de l'année. Quand je dis rien n'est prêt, c'est-à-dire ce qui est de la responsabilité de l'État, les transports, l'hôpital, les écoles, même s'il y a aussi les collectivités bien sûr qui doivent agir sur les écoles.
Alors, vous savez que on a eu en 2003 une crise effectivement de canicule qui était importante et on peut considérer quand même qu'il y a une prise de conscience depuis cette date-là, en tout cas pour les EHPAD. Vous savez que depuis il y a des plans qui sont mis en place. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il y a un plan en tout cas pour les hôpitaux, un plan Orsan qui permet effectivement avec des niveaux différents et bien d'engager notamment le plan numéro 3 qui a été engagé par le Premier ministre hier avec des renforts de ressources humaines qui vont pouvoir intervenir avec des déprogrammations effectivement pour permettre à l'hôpital de se tenir. Après il y a des plans, mais il y a aussi les plans bleus, vous savez, pour les établissements, pour les EHPAD qui ont des plans de programmation. Vous avez des plans canicules qui sont préparés aujourd'hui par nos communes et par nos départements avec
donc,
des comités
EHPAD,
canicules.
Y a pas de problème, hein.
Alors, j'ai dit que depuis 2003, il y avait une prise de conscience qui permettait aujourd'hui d'avoir des plans de préparation. Dire qu'il n'y a pas aucune préparation et que c'est amateur, il me semble que c'est excessif par rapport effectivement à une prise de conscience qui avait eu lieu.
Avec... Dans les EHPAD, mais quand on voit que pour les écoles, alors vous n'êtes pas en charge des écoles, mais quand on voit que des enfants font des malaises dans des écoles aujourd'hui, que des profs veulent arrêter d'ailleurs de travailler parce que la situation est insupportable, on se dit quand même tout ça aurait pu être anticipé. Alors on l'a fait pour les EHPAD il y a 23 ans, on l'a pas fait visiblement pour tous les services publics.
En tout cas, il y a des plans canicules qui existent une fois encore au niveau départementaux, qui sont gérés par les préfets et qui réunissent justement autour d'une même table à la fois les établissements sanitaires, médico-sociaux,
les
ARS.
C'est une chose,
et ensuite, dans les écoles, vous avez vu qu'il y a des décisions qui ont été effectivement prises par le ministre de l'Éducation nationale, avec surtout des décisions au niveau des communes, qui parfois ont fermé lorsque cela s'imposait des établissements. Donc effectivement, la responsabilité, elle est à la fois du gouvernement, elle est aussi des élus locaux et des collectivités. Mais un plan, il est là pour s'exécuter. Un plan, il est là pour se préparer à se mettre en action. Donc, dire qu'il n'y a pas de préparation, en tout cas, ça n'est pas la réalité, une fois encore, de ce qui a pu s'engager avec, une fois encore, des cellules, on en a parlé, une cellule interministérielle de crise qui s'est réunie.
Mais ça, la cellule interministérielle, c'est pas elle qui met des climatisations, c'est pas elle qui met des espaces aérés dans les EHPAD, dans les maisons d'accueil spécialisées. Je peux vous montrer une image qui nous a été envoyée il y a quelques instants par l'association Média Handicap. Vous savez ce que c'est? c'est que les masses, les maisons d'accueil spécialisées.
J'étais dans une masse mardi.
Voilà, et là, regardez, ça vient de Vaucresson, parce qu'en fait, il y a un seul espace qui est ventilé, qui est avec air conditionné, climatisé. Sinon, on est obligé de sortir les malades polyhandicapés, les personnes polyhandicapées de leur chambre, où il fait plus de 30, 35 degrés, et de leur envoyer un brumisateur. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre des espaces au-delà des climatisations ou des climatiseurs dans ces maisons d'accueil spécialisées?
Alors il y a des plans d'investissement. Là,
on est en 2026,
mais il y a aussi effectivement des plans d'investissement, notamment de 2020.
C'est une souffrance
2030.
En plus pour ces gens qui ne peuvent pas parler, ne peuvent rien dire, rien faire.
Vous savez, vous l'avez rappelé, ministre des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, personnes en situation de handicap que je rencontre tous les jours. Je rencontre à la fois les professionnels, les parents et les personnes. Donc, je connais bien les personnes et je sais que ces personnes sont fragiles et qu'il faut qu'elles soient bien évidemment accompagnées. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, de remercier les professionnels qui sont dans ces établissements,
mais qui souffrent aussi
et qui sont
évidemment et qui attendent.
C'est pour ça que des investissements doivent être faits. C'est pour ça qu'il y a un plan, une fois encore, d'investissement important qui sont faits dans les établissements, dans ces établissements comme dans les EHPAD où là aussi il y a un plan d'investissement important qui est fait, avec une enveloppe, vous parlez d'anticipation, avec une enveloppe qui a été dégagée dès décembre 2025 de 50 millions d'euros pour précisément acheter du matériel. Il y avait déjà un plan de 2021 à 2030, un Ségur de 3 milliards d'euros, parmi lesquels il y a 450 millions d'euros qui permettaient justement à ces établissements de se préparer à cette transition.
Par
exemple, depuis 2024, on a mis en place une journée de solidarité, c'est-à-dire que les Français travaillent gratuitement pour notamment mieux protéger nos aînés. Sur 22 ans, ça fait donc près de 60 milliards d'euros. Cet argent a bien été fléché là où il fallait, on l'a vraiment bien dépensé. C'est-à-dire qu'avec 60 milliards, on peut en équiper des établissements de climatiseurs.
Je ne peux pas vraiment vous laisser dire que depuis 2003, rien n'est...
Non, je ne dis pas, justement, il y a eu de l'argent. Bah, les Français ont contribué, c'était un nouvel impôt qu'on a mis en place pour payer par les entreprises, les salariés. Bon,
effectivement,
est-ce que cet argent a permis de mieux protéger nos aînés, de mieux protéger les personnes handicapées?
En tout cas, ça a permis effectivement de construire des établissements. Aujourd'hui, il y a encore des plans, je vous parlais du dernier plan pour les EHPAD, qui est donc de 6 milliards d'euros, qui permet effectivement de rénover, de continuer à construire, avec 450 millions. Je vous disais aussi 50 millions qui ont été dégagés dès le mois de décembre, parce qu'il y avait en prévision éventuellement de canicule. Et là, je peux annoncer d'ailleurs sur votre plateau qu'il y aura 50 millions supplémentaires pour acheter du matériel et pour permettre effectivement d'acheter du matériel de rafraîchissement.
Pardon Marie, mais entre le moment où ceux qui nous écoutent disent voilà, on va acheter du matériel et le moment où ce matériel va arriver, quels sont les délais? Ça met combien de temps?
On va évidemment faire en sorte que ces délais soient le plus courts possible. Vous savez que la ministre de la Santé a annoncé également un plan de 100 millions d'euros pour les hôpitaux, avec la possibilité de déclencher des acheteurs publics qui, avec eux comme obligation et comme commande, de faire ces commandes le plus tôt possible pour, et vous avez raison, que ce matériel arrive le plus vite possible dans l'établissement pour à la fois permettre d'accueillir dans des conditions les meilleures les personnes, mais aussi pour le personnel, pour effectivement qu'il travaille dans de meilleures conditions.
On a Julie Roser qui est devant l'hôpital Cochin à Paris, que l'on va retrouver en direct pour BFM TV, parce que c'est l'hôpital qui est au centre de toutes les attentions aujourd'hui, Julie, et dans les jours qui viennent surtout.
Oui, la situation est très tendue dans les hôpitaux, ce qui a conduit à déclencher pour la première fois depuis sa création le plan Orsan. Alors le plan Orsan, c'est un système qui met à disposition des agences régionales de santé des certains outils pour monter en charge face à une canicule d'ampleur. Il permet d'activer notamment plusieurs leviers dans les hôpitaux, dans les SAMU, mais aussi auprès de la médecine de ville. Le gouvernement a donc déclenché aujourd'hui le plan 3. Le niveau 3, pardon, de ce plan. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les tensions sur le système de santé sont majeures. C'est une situation de crise à laquelle il faut répondre par des mesures exceptionnelles comme des transferts de patients, des déprogrammations larges des opérations non urgentes ou encore un renfort exceptionnel au sein des hôpitaux. À l'hôpital Cochin, où je me trouve avec Aristide Saadna, une représentante syndicale me confiait que le système était sur le point de craquer, manque de personnel, manque de matériel, des climatiseurs qui tombent en panne les uns après les autres. Le ministère de la Santé au niveau national observe une arrivée massive aux urgences, une multiplication par 4 des cas liés à la chaleur. Par exemple, à Paris, cette nuit, 25 arrêts cardio-respiratoires ont été pris en charge. C'est 5 fois plus que d'habitude.
Merci Julie Roser avec Aristide Saadna à l'hôpital Cochin.
Oui, une question, Madame la Ministre. Vous êtes en charge des personnes handicapées, des personnes âgées également. Vous parliez des EHPAD et vous faisiez référence à l'épisode caniculaire de 2003. Quand on s'aperçoit en 2003, à la fin de cet épisode, les 15 000 morts victimes de cet épisode de chaleur, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules chez elles, qui n'ont pas de famille, en tout cas pas à proximité. Est-ce que là, de ce point de vue-là, l'État s'est organisé pour prendre de ces nouvelles, de ces personnes? Et on apprend ce soir, information BFM TV, que le Premier ministre a écrit aux maires, aux élus, pour peut-être faire une sorte de partenariat avec la Poste. Est-ce que vous nous confirmez cette information d'un système de facteurs qui pourrait aller se rendre chez ces personnes en difficulté, vulnérables, seules, et qui pourrait prendre de leurs nouvelles pour s'assurer que tout simplement, elles sont en bonne santé?
Alors, effectivement, je vous confirme l'information que vous avez. Et merci de parler des personnes, effectivement, qui sont à domicile, qui représentent effectivement 90% des personnes âgées qui vivent aujourd'hui à domicile. Évidemment, vous avez aujourd'hui tout un ensemble d'acteurs et qui permet d'intervenir à domicile. Vous avez bien évidemment les aides à domicile. Et j'ai eu un échange, et j'ai un échange tous les trois jours en visio avec l'ensemble des fédérations, notamment les aides à domicile, les EHPAD et les ARS.
Et ça, ça tient? Ils vous disent que...
Alors, justement, les aides à domicile viennent plus souvent. Donc, elles mettent à l'écart aujourd'hui le plan d'accompagnement qui, en principe, est mis en place pour justement venir plus souvent, vérifier comment est la personne et lui rappeler les gestes essentiels. Vous avez aussi les bénévoles. J'étais encore mardi avec la Croix-Rouge, ce matin avec la Fondation Claude Pompidou, où là, vous avez des bénévoles qui appellent, des bénévoles qui viennent à domicile. Vous avez les CCS. J'étais encore ce matin, pareil, à Nogent, avec un CCS qui est très actif, avec des personnes qui téléphonent. Et puis, j'aimerais aussi profiter de cette présence sur votre plateau pour rappeler que chacun peut être acteur aussi de ce domicile, et chacun peut être acteur de cette solidarité. C'est venir effectivement et oser aller frapper à la porte de son palier à côté de chez soi ou à côté de sa maison. Alors, il y avait une dame qui me disait ce matin que finalement elle se considérait, parce qu'elle elle a pris l'habitude d'appeler les 30 personnes âgées de son immeuble, elle me disait que c'était une sorte de clim humaine. Et je crois que ça aussi, il faut aussi mettre en valeur ça, et je crois que chacun ici a sa responsabilité. L'État doit prendre ses responsabilités, les communes, les collectivités, les associations. Mais je crois vraiment aujourd'hui, c'est un appel que je lance. Ça a déjà été lancé par la ministre de la Santé hier, je crois que c'était également sur votre plateau. Il est nécessaire, et je crois que c'est un rôle essentiel que chacun doit avoir, que de regarder autour de soi, que de prendre des nouvelles de ses proches, de ses amis et de ses voisins, et d'oser aller taper à la force. Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est 750 000 personnes âgées qui sont considérées comme étant isolées. C'est les chiffres donnés par le Pitchard des pauvres. Donc là, il y a vraiment une obligation, je crois, morale et civique et citoyenne à avoir, et solidarité, à aller voir les personnes âgées qui sont effectivement isolées.
Votre supérieur hiérarchique, si je puis dire, le Premier ministre Sébastien Lecornu, a écrit au maire, c'est une info BFM TV. Voilà ce qu'il a écrit, le Premier ministre, le chef du gouvernement, aux élus de la République. Je veux être aussi très clair face à ceux qui, depuis quelques jours, se transforment en inspecteurs des travaux finis. Voilà ce qu'il écrit.
Et qui explique que la puissance publique n'aurait rien fait pour adapter le pays au changement climatique. C'est faux. Voilà un
dire
courrier.
Dire que rien n'a été fait revient à nier le travail des milliers d'élus et d'agents publics.
Oui, en effet, sur ce procès, en manque d'anticipation, en manque de préparation, il y a un constat qui est fait par tous. Les écoles sont un exemple criant, mais le Premier ministre, ce soir, par ce courrier, semble-t-il, veut un peu remettre les points sur les i, parce que la responsabilité, de son point de vue, est aussi à partager entre l'État, mais aussi toutes les collectivités qui sont en charge aussi de ces établissements.
Il faut rappeler, ce sont les municipalités qui font le bâti des écoles primaires,
exactement,
les départements qui font les collèges et les régions qui font les lycées.
Mais quand même, ce mois de juin aurait été quand même terrible pour l'État, parce qu'il y a eu avec l'affaire Rihanna quand même la mise en lumière d'une défaillance de la justice. On parle même de problèmes systémiques. La canicule révèle quand même les manquements dans l'anticipation pour les écoles, mais aussi pour le transport, pour les hôpitaux. C'est un mois assez tragique pour l'État, et dans un pays où on compte beaucoup sur l'État-providence. D'ailleurs, notre système est basé là-dessus.
Et l'État peut-il tout, sans doute?
C'est intéressant parce qu'on est en période présidentielle. Donc là, il y a des réponses qui seront attendues de la part des candidats.
Et ces deux sujets que vous mentionnez seront sans doute des thématiques de campagne présidentielle. Ce soir, Sébastien Lecornu, en tout cas par ses prises de parole différentes, dit en effet à tous ceux qui critiquent, à tous ceux qui disent que rien n'a été fait, non, c'est faux et que par ailleurs, la responsabilité est aussi ce partage entre l'État, mais, et on le mentionne une nouvelle fois, les collectivités.
Et chacun
se renvoie
la balle
souvent. On parle, exactement, on parle régulièrement de l'enfer de Matignon, ça très clairement. De ce point de vue-là, Sébastien Lecornu affronte depuis maintenant plusieurs semaines une série de crises qui mettent en exergue et en lumière peut-être quelques défaillances.
Vous n'en sortez pas avec les crises, quoi, en fait.
Il y a différentes crises, mais je crois que ne pas de parler d'une absence d'anticipation n'est pas vrai, un correcteur factuellement sur ce que...
Oui, mais vous entendez que d'un point de vue de l'opinion publique, ça c'est inentendable mais aujourd'hui.
C'est bien pour ça que c'est bien d'inviter les ministres pour venir effectivement vous répondre et vous montrer que quand on prévoit un plan canicule sur le plan des territoires qui est confié au préfet et que vous mettez autour de la table l'ensemble des acteurs à la fois effectivement ARS, communes, lorsque... Et c'est les déplacements que j'ai fait cette semaine et c'est des visios aussi que j'ai pu faire avec les maires à qui le Premier ministre a écrit, effectivement avec la Poste. Aujourd'hui, il va y avoir effectivement ce renfort d'aide. C'est le fait de ne pas dire qu'il n'y a pas d'anticipation est juste factuellement faux, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, le plan Orsan qui est déclenché il y a quelques jours déjà, avec ces niveaux 1, 2 ou 3, avec les plans bleus.
Il y a des plans.
Un plan sert à quelque chose. Oui. Je pense sert à quelque chose. Quand vous avez des établissements aujourd'hui qui ont des plans, quand vous avez des EHPAD qui ont des plans bleus, ça veut dire aussi qu'elles se préparent, qu'elles ont du matériel qui est prêt, qu'elles ont des médecins qui sont prêts, elles ont des. Les aides-soignantes qui sont prêtes.
Est-ce que vous avez fait des plans pour vos vacances ?
Est-ce que vous allez partir en vacances ?
Parce qu'il paraît que M. Lecornu veut vous priver de vacances.
Alors très sincèrement, je ne me suis pas posé la question. Mais véritablement, je pense que vous avez... Enfin, je suis ministre depuis 3 mois. J'essaye chaque jour d'être utile à mon pays.
Mais
d'être utile aux personnes pour lesquelles je suis nommé, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Très sincèrement, je n'ai pas pensé à mes vacances et ça n'a pas été un sujet qu'on a pu aborder avec le Premier ministre.
Merci Madame la Ministre. Merci d'être venue répondre à nos questions. Camille Gaillard-Minier, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées.